Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 28 novembre 2019, Thanksgiving Day ici aux États-Unis, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, au moins 19 autres civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué aux ADF près de Beni.
Appel de la France au Mali et au Burkina Faso pour la stabilité sur des territoires secoués par les violences djihadistes et intercommunautaires.
Au Bénin, les autorités ont déclaré persona non grata, l'ambassadeur de l'Union européenne, accusé d'activités subversives.
La Chine menace de représailles les États-Unis après la promulgation par le président Donald Trump de la loi sur Hong Kong.
En Irak, des manifestants ont incendié le consulat d'Iran à Najaf, la ville sainte chiite dans le sud du pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au moins 19 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF près de Beni dans l'est de la RDC, et ce alors que se tiennent depuis une semaine des manifestations violentes pour dénoncer la passivité de l'ONU et des autorités face aux tueries. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Ce qui me paraît encore le plus important maintenant, c'est encore plus d'action politique, a-t-il déclaré devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale après la mort de 13 militaires français lundi dans une opération anti-djihadiste au Mali et sur fond de flambée de violence dans les deux pays. Un accord de paix avec les rébellions qui s'étaient soulevées en 2012 a été signé en 2015, mais son volet sur le désarmement des groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes peine à être appliqué. Plus de politique aussi pour faire en sorte que la mise en œuvre de la force conjointe du G5, Mali, Mauritanie, Niger, Burkina et Tchad, soit concrétisée, a poursuivi Jean-Yves Le Drian. Le chef de la diplomatie française s'est également inquiété, je cite, de la manière dont la désinformation puisse se faire singulièrement au Burkina et au Mali depuis peu. Il y a une vraie bataille de communication à mener, une vraie campagne d'explication pour éviter le développement de fausses informations, fin de citation. Les troupes étrangères au Sahel, notamment celles de la force française Barkhane, font face à un rejet apparemment grandissant chez les habitants du Burkina Faso, du Mali et du Niger.
Correction, c'était le ministre français des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, qui appelait mercredi le Mali et le Burkina Faso à agir plus au plan politique pour établir la stabilité sur des territoires secoués par les violences djihadistes intercommunautaires. Et c'était avec Jean-Roger Bion.
Retour maintenant sur la situation à Beni en RDC avec Abdourahmane Dia.
Ce dernier massacre a eu lieu à 30 km au nord de Beni, à l'entrée d'une zone appelée le Triangle de la Mort, en raison des tueries qui s'y déroulent depuis plusieurs années. Un porte-parole de la force onusienne a indiqué que la MONUSCO a envoyé hier une force d'intervention rapide avec des militaires congolais. Le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York avance un bilan de 99 personnes tuées dans la région de Beni depuis le 5 novembre. Les auteurs de ces tueries sont dans l'immense majorité des cas des membres du groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées. En réponse à ces tueries, la région de Beni est agitée depuis une semaine par des manifestations anti-ONU qui ont fait au moins 7 morts depuis samedi. L'ONU a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'un manifestant congolais tué mardi lors d'un face-à-face avec des casques bleus.
Au Bénin, le gouvernement a ordonné à l'ambassadeur de l'Union européenne de quitter le territoire, l'accusant d'activités subversives et d'ingérence dans les affaires intérieures. Les précisions d'Irénée Herman Oumbo.
Les autorités béninoises ont donné jusqu'au 1er décembre à Olivier Net, chef de la délégation de l'Union européenne à Cotonou, pour partir du Bénin. Nous déplorons que cette coopération entre le Bénin et l'Union, qui se porte très bien et qui est incontournable, ait été perturbée par les activités de ce diplomate qui se laisse aller à des activités que nous pouvons considérer comme subversives, a déclaré le porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Nulle part au monde, encore moins dans les pays occidentaux, vous ne verrez un diplomate africain manquer à ses obligations de courtoisie et à son devoir de réserve, a-t-il indiqué. Le gouvernement l'accuse de s'ingérer beaucoup trop dans les affaires intérieures et de ne pas respecter son devoir de réserve de diplomate. La presse béninoise a fait état d'une rencontre récente entre M. Net et des représentants d'un groupe d'opposition de l'ancien président Boni Yayi. La délégation de l'Union européenne à Cotonou n'a souhaité faire aucun commentaire. À Bruxelles, on se dit extrêmement surpris de cette décision, assurant ne pas connaître les raisons spécifiques.
Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont inquiétés hier de possibles irrégularités lors des récentes élections locales en Tanzanie, estimant que le scrutin avait manqué de crédibilité. Ces consultations ont été remportées avec plus de 99% des sièges par le parti du président John Magufuli. Dans la plupart des cas, les candidats du parti au pouvoir n'avaient pas d'adversaires aux élections de dimanche. L'opposition avait décidé de boycotter le scrutin pour protester contre les intimidations dont ces candidats disaient avoir été victimes. Ces élections ont été organisées un an avant le scrutin présidentiel auquel M. Magufuli devrait se représenter.
Le chef djihadiste égyptien Hicham al-Achouamawi, extradé de Libye, a été condamné à mort hier par un tribunal militaire pour son implication présumée dans des attentats, a annoncé le porte-parole de l'armée. Hicham al-Achouamawi, arrêté en octobre 2018 en Libye, avait été remis aux autorités égyptiennes en mai dernier par le maréchal libyen Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye soutenu par le Caire. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Chine a menacé aujourd'hui de prendre des mesures de représailles non spécifiées contre les États-Unis en pleine guerre commerciale entre les deux pays après que le président Donald Trump a promulgué la loi soutenant les manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong. Pour le ministère chinois des Affaires étrangères, cette loi est, je cite, une abomination absolue et dissimule de sinistres intentions un acte d'hégémonie pur et simple. Fin de citation. Depuis le début des manifestations dans l'ancienne colonie britannique, il y a près de 6 mois, Pékin dénonce des émeutiers téléguidés par des pays étrangers, au premier rang desquels les États-Unis et la Grande-Bretagne.
En Irak, des manifestants ont incendié hier soir le consulat d'Iran dans la ville sainte chiite de Najaf, dans le sud du pays, en proie à sa crise sociale la plus grave depuis des décennies. Depuis le 1er octobre, les Irakiens, majoritairement chiites comme l'Iran voisin, manifestent pour réclamer la chute du régime à Bagdad qu'ils jugent corrompu. Et ils accusent l'Iran d'être l'architecte d'un tel régime. La contestation a fait jusqu'ici 350 morts.
Au Chili, un autre pays en pleine crise sociale, des échauffourées ont opposé hier des dizaines de manifestants à des vigiles dans le centre commercial de Santiago, le plus grand centre commercial. Le Chili connaît actuellement sa pire crise sociale en 3 décennies, portée par des revendications sociales comme la hausse du salaire minimum et marquée par de violents affrontements. En plus de 40 jours de protestations, Santiago ainsi que d'autres villes ont connu des pillages et des incendies de centres commerciaux à répétition.
Ici aux États-Unis, une partie du pays est sous la neige. Ces tempêtes ont perturbé les transports hier, à la veille de Thanksgiving, un jour férié et l'une des périodes les plus chargées de l'année sur les routes et dans le ciel. Le point avec Bagassi Koura.
Un événement météorologique extrêmement actif est en place à travers la plupart des États-Unis, indiquent les services météo. La neige et le blizzard ont d'abord touché le Colorado et le Wyoming avant d'aller vers l'est et la région des Grands Lacs. À Denver, dans le Colorado, où il est tombé mardi 30 cm de neige, près de 500 vols ont été annulés et 500 autres retardés, forçant un millier de passagers à dormir à l'aéroport depuis lundi soir. Voitures sur le bas-côté, camions bloqués dans l'ouest et le midwest de multiples routes ont été coupées après des tempêtes de neige. Dans le sud de l'Oregon et le nord de la Californie, les autorités ont aussi conseillé à la population de rester chez elle en prévision de vents violents. À New York, ces vents pourraient aussi clouer au sol les ballons géants de la traditionnelle parade de Thanksgiving ce jeudi matin. Environ 55 millions de personnes sont attendues sur les routes ou dans les airs pour ce long week-end dévolu à la famille.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
La Guinée équatoriale attribue à des compagnies étrangères ses premières concessions pour l'exploration et l'éventuelle exploitation de minerais et métaux précieux de son sous-sol. Aucune société nationale ou étrangère n'avait jamais exploré ni exploité les mines de ce pays riche en pétrole et en gaz. Les autorités ghanéennes veulent bannir d'ici 2022 les importations de riz dans le cadre d'une stratégie visant à soutenir la production locale. La majeure partie du riz actuellement consommé dans le pays est importée. La demande galopante de riz au Ghana devrait atteindre 40 kg par tête d'ici 2020, alors que la production locale n'arrive pas à suivre le rythme. En outre, les consommateurs urbains préfèrent de loin le riz importé au riz local, jugé de piètre qualité, et absorbent 76% des stocks achetés sur le marché mondial. Pour terminer, l'agence gouvernementale américaine OPIC envisage de financer le projet de terre rare Ngwala en Tanzanie, écrit l'agence Ecofin. PIC Resources, la compagnie en charge du projet, a reçu une lettre d'intérêt de l'institution de financement qui doit encore mener son processus habituel d'examen et d'approbation avant de se décider. Le projet Ngwala, détenu par PIC Resources à 100%, devrait produire annuellement 32 700 tonnes de concentré de terre rare sur une durée de vie de 26 ans.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Gambie en demi-finale du tournoi UFOA.
Oui, la Gambie est assurée de disputer la demi-finale de ce tournoi des moins de 20 ans. Après sa victoire 1-0 sur le Libéria hier lors de la deuxième journée du groupe B, dans un match fermé, l'unique but de la rencontre est intervenu en deuxième période avec une réalisation de Moumoudou Boyang avec 4 points en 2 matchs dans un groupe à 3 membres. Les Scorpions tenant du titre sont certains d'occuper l'une des deux premières places. Prochaine sortie dans ce groupe B, samedi, entre le Libéria et le Mali.
Cinquième journée de l'Europa League ce soir.
Séville et Manchester United déjà qualifiés. Un autre grand nom, Arsenal, cherche à atteindre les 16e de finale. Les Gunners, en tête du groupe F avec 10 points, n'ont besoin que d'un match nul contre Francfort pour voir la phase finale. Le duel du groupe D entre le Sporting Lisbonne et le PSV Eindhoven peut permettre aux Portugais d'accrocher leur qualification. Dans le groupe J, l'AS Rome serait éliminé en cas de défaite à Istanbul contre Başakşehir, à condition que Mönchengladbach s'impose dans le même temps chez les Autrichiens de Wolfsburg. Autres candidats aux phases finales à pouvoir sceller leur qualification, les Young Boys de Berne, l'APOEL Nicosie, Copenhague, le Dynamo Kiev ou encore Braga et Wolverhampton qui s'affrontent dans le groupe K.
Simple contusion à la cheville pour Hazard, touché contre Paris.
Oui, l'attaquant belge du Real Madrid, touché hier contre le PSG, souffre d'une contusion sur son pied droit. Eden Hazard a été contraint de céder sa place à la 68e minute face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Victime d'une torsion à la cheville droite, le numéro 7 s'est fait soigner sur le bord de la pelouse, puis grimaçant, il a fait signe qu'il ne pouvait pas continuer. L'international belge de 28 ans pourrait donc être rétabli pour le duel au sommet en Liga entre le Real et le FC Barcelone le 18 décembre en Catalogne.
João Félix reçoit le prix Golden Boy.
Et oui, l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid a reçu le prix Golden Boy, décerné par le quotidien sportif italien Tuttosport au meilleur joueur de 21 ans évoluant en Europe. João Félix a devancé l'anglais Jadon Sancho du Borussia Dortmund et l'allemand Kai Havertz du Bayer Leverkusen. Le portugais succède au palmarès au défenseur néerlandais Matthijs de Ligt. João Félix, qui vient d'avoir 20 ans, a été transféré cet été du Benfica à l'Atlético pour un montant colossal de 120 millions d'euros. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Elle est Clippers et Memphis 121 à 119, Milwaukee et Atlanta 111 à 102, Houston et Miami 117 à 108, Boston et Brooklyn 121 à 110, Charlotte et Détroit 102 à 101, Orlando et Cleveland 116 à 104, Indiana et Utah 121 à 102, Philadelphie et Sacramento 97 à 91, Toronto et New York 126 à 98, Minnesota et San Antonio 113 à 101, Washington et Phoenix 104 à 132. Pour les résultats, Oklahoma City, Portland, Chicago, Golden State, LA Clippers et Nouvelle-Orléans. Rendez-vous à 7h, temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire est plus que préoccupante. Plusieurs chancelleries ont déjà déconseillé le pays à leurs ressortissants. Et il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé le rapatriement prochain des enfants américains mineurs. Une situation très mal vue dans le pays, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
Il y a une semaine, la note a fait le tour des réseaux sociaux. 22 élèves quitteront le Burkina Faso avant le 1er décembre. Une décision prise par prudence, selon l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Au regard de la détérioration de la situation sécuritaire, une décision vivement critiquée et qui a poussé l'ambassadeur américain à se justifier. Hier, dans une vidéo publiée via la page Facebook de l'ambassade, le diplomate américain annonce.
J'ai dû prendre une décision difficile à propos de la configuration de l'ambassade.
L'ambassadeur André Young.
J'ai pris la décision d'envoyer hors du pays nos enfants mineurs pour mieux nous configurer à focaliser et mettre notre ambassade sur le pied de guerre pour aider le Burkina Faso à mieux confronter cette menace. Difficile.
Toujours hier, dans un communiqué du département d'État américain, Washington a déconseillé aux voyageurs américains de mettre les pieds au Burkina Faso en raison de la situation sécuritaire.
J'estime qu'il y a des chancelleries ou des États qui parlent à leurs ressortissants.
Rémi Danginou, porte-parole du gouvernement.
Nous avons un pays, c'est le Burkina Faso. Nous avons des forces de sécurité qui travaillent à consolider la sécurité. La situation dans certains endroits a été critique ou peut-être critique, mais chaque fois, nos FDS ont été là pour relever les défis. Donc chacun d'entre nous parle à ses populations et comme moi je dis, eux ils ont la possibilité de repartir chez eux, nous on n'en a pas. La seule possibilité que nous avons, c'est de rester chez nous.
C'est très légitime de la part des Américains de protéger les plus vulnérables de leur présence au Burkina Faso, notamment au niveau de l'ambassade.
Il faut aller au-delà de la victimisation et se pencher réellement sur la situation sécuritaire du pays, selon Siaka Koulibaly, analyste politique.
Ils maintiennent leur coopération essentiellement militaire avec le Burkina Faso, ce qui révèle donc une double appréciation. D'un côté, les États-Unis semblent préoccupé. Et du côté burkinabé, on assiste à une sorte de relativisation de la menace avec les propos du gouvernement donc, qui estime qu'ils sont encore là et qu'ils vont faire face à la situation.
Il y a une semaine, le ministère français des Affaires étrangères avait classé tous les pays en zone rouge et orange pour les touristes occidentaux, c'est-à-dire déconseillés, sauf raison impérative ou formellement déconseillés. Il y a 6 mois, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada avaient déconseillé à leurs ressortissants de se rendre au Burkina. Au total, les attaques ont fait près de 700 morts au Burkina Faso depuis début 2015, selon un comptage de l'AFP, et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon les Nations Unies. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les forces onusiennes et étrangères sous le feu des critiques dans leur pays d'accueil. Des manifestations ont éclaté à Beni, dans l'est de la RDC, contre la MONUSCO, avant de se propager dans d'autres localités comme Goma et Butembo. Il est reproché aux casques bleus leur inaction face aux attaques des groupes armés. Au Mali également, la présence de la mission de l'ONU et des forces françaises est fortement critiquée. Qu'est-ce qui explique ce sentiment envers les troupes étrangères? Comment rendre leur mission plus efficace et mieux protéger les civils? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, deux anciens premiers ministres, Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoko Embalo, s'affronteront au second tour de la présidentielle le 29 décembre. Deux produits du système vont ainsi s'affronter pour succéder au président sortant José Mario Vaz, qui n'a pas franchi le premier tour. Pour une analyse, Idriss Fall a joint notre confrère Mahmoud Cissé à Bissau.
L'ancien premier ministre candidat du PAIGC, Domingo Simoes Pereira, qui est arrivé avec 40,13% des voix, et Umaro Mbalo Sissoko, qui est arrivé avec 27,65% des voix. Donc, c'est les deux qualifiés pour le deuxième tour.
Qu'est-ce qui va être déterminant pour ce deuxième tour, alors?
C'est le pragmatisme et le programme. Je pense que Domingo Simoes Pereira est en pole position parce qu'il a un programme qui s'appelle Terra Ranca, qu'il a pu vendre, entre guillemets, à la population, et la population a adhéré carrément à ce programme. Donc, je pense que c'est le favori, sauf surprise, de dernière minute.
Mais il y aura des alliances, quand même, et des ralliements.
Oui, il y aura des alliances, forcément. Donc, je pense que tous les candidats sont en train de tisser des alliances. Il y avait une alliance entre l'appui, le faiseur de roi qui est Nuno Nabian et Domingo Simoes Pereira. Quelques temps après, Nuno a cassé cette alliance. Mais je pense que le dialogue n'est pas coupé carrément entre le PAIGC et l'appui PGD de Nuno Nabian. Donc, chaque candidat essaye de rallier le maximum de voix et de compromis. Je pense que Domingo, quand même, a une longueur d'avance sur les autres candidats.
Mais comment expliquez-vous que le président sortant ne soit pas parmi les favoris?
Oui, c'est très simple, parce que depuis sa rupture avec le PAIGC, qui est le parti libérateur et le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, sans compter aussi que bon, les différents accords qui ont été faits à Abuja, bon, il s'est renié tout seul, donc il a pu se mettre à dos pratiquement toute la population, avec l'Assemblée qui ne fonctionnait pas, il était isolé. Et le dernier en date, c'est la nomination de son premier ministre qui était illégal, Faustino Embalo. Et ça, ça a révolté toute la population bissaoudienne.
Quel que soit l'issue, le prochain président a du pain sur la planche quand même.
Ah oui, ça je pense que tous les candidats sont unanimes là-dessus, que le prochain président a du pain sur la planche. Parce que à Bissau, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, l'éducation ne marche pas, la santé, etc., etc. Donc, tout est à refaire et aucun candidat n'a une baguette magique.
Notre confrère Mahmoud Cissé, journaliste, joint à Bissau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Une question sociale à présent, la problématique de la dot, tradition très répandue sur le continent africain. Les critiques estiment que c'est une pratique qui dégrade les femmes et en les rabaissant à de simples valeurs marchandes. Par exemple, au Nigeria, les sommes demandées sont tellement élevées qu'une affaire récente s'est soldée par un suicide. Mais les partisans de cette pratique la considèrent comme un symbole culturel et religieux. Reportage de Chika Udoa à Yola, repris ici par Michel Joseph.
Sadatou Ahmed Manga colore ses pieds et ses mains avec du henné. Elle doit se marier bientôt. C'est la coutume dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman. Ici, la tradition en matière de mariage, c'est d'abord la dot, la somme que le fiancé verse à la famille de la future mariée.
En islam, la dot doit être payée avant le mariage. Elle existe depuis l'époque du prophète Mahomet, paix soit sur lui, et nous continuons la pratique.
De plus en plus de Nigérians condamnent cette pratique jugée dégradante envers les femmes, faisant d'elles de simples objets à vendre. Les femmes s'apprêtant à se marier ne participent même pas à la détermination du montant de la dot, négociée entre les parents masculins du futur couple. En octobre, une jeune fille âgée de 17 ans s'est immolée parce que son petit ami ne pouvait trouver la dot fixée à moins de $50. Fiabina Penyoel est une marraine.
Tout au début, cette question de la dot était comme une plaisanterie entre le futur mari et sa belle famille. Dans la plupart des cultures, c'était une petite chose dont le monde pouvait s'acquitter. Avec le temps, c'est devenu si coûteux que la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. C'est un sujet de préoccupation. C'est donc comme si on utilisait la dot pour classer les gens par rang social.
Agatha Okata, spécialiste de la littérature africaine à l'Université américaine du Nigeria, attribue la critique de la dot à l'idéologie féministe radicale.
There is a cultural shock for the West.
Le monde occidental subit un choc culturel, car ce n'est pas dans sa culture. Il se penche sur la dot et se demande « Pourquoi devez-vous acheter une femme ?» Le concept de dot en soi n'achète pas quelqu'un, c'est juste un symbole d'amour.
Payer la dot est différent d'apporter une dot, qui est un bien ou une richesse transférée de la famille de la mariée à l'époux ou à sa famille. Pour la majorité des Nigérians, payer la dot, c'est souligner la valeur d'une femme, dit Yola.
Je pense que c'est juste. Je pense que c'est la seule façon d'amener une femme à apprécier l'amour que tu as, de montrer à quel point tu l'aimes.
Et pour la plupart des familles nigérianes, toutes religions confondues, le mariage n'est valable et célébré que lorsque la dot a été payée. Comme quoi, les traditions ont la peau dure.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les Américains célèbrent donc aujourd'hui la fête de Thanksgiving, cette célébration désormais laïque en Amérique du Nord, qui se fête généralement en famille, a lieu le quatrième jeudi de novembre, et la plupart des entreprises et des administrations sont fermées ce jour. Ici à Washington DC, cela fait 25 ans qu'une famille africaine a décidé de donner un peu d'elle-même aux autres, une manière d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude en ce jour spécial de l'année Azuma Compaoré.
Pour beaucoup d'Américains, la fête de Thanksgiving, c'est avant tout la grosse dinde, la famille et les amis. C'est aussi un temps de gratitude pour les bénédictions reçues tout au long de l'année. Eddie est une habitante du quartier.
Je suis ici pour célébrer Thanksgiving avec le quartier, dire merci pour la famille et juste le fait d'être en vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y participeront pas cette année.
Pour les Irono, au-delà d'être un moment de réflexion, c'est également une opportunité de servir les moins fortunés. Emmanuel Irono, président de la Fondation TIS et de Motir Service.
Il y a ceux qui ont faim, ceux qui sont moins chanceux et vivent dans le chaos, les problèmes de santé mentale, sont frustrés ou veulent se tuer. Mais nous les réunissons, nous nous asseyons et partageons un repas avec eux en leur montrant de la dignité et du respect. Poser des actes d'amour et de compassion et donner un peu de vous-même, cela fait toute la différence.
Depuis 5 heures du matin, l'armée de volontaires, mise sur pied par Emmanuel Irono et son épouse Jay, à travers leur fondation, ne ménagent aucune énergie pour s'assurer que tout le monde ait un repas de Thanksgiving. Comme chaque année depuis 25 ans, la Fondation TIS offre gratuitement des dindes et le nécessaire pour concocter un délicieux repas de famille. Cette année, 800 dindes au total sont offertes en cadeau à la communauté. Joanne est une habitante du quartier.
Je cuisine pour ma famille chaque année. Je vais donc rentrer à la maison pour cuisiner tout ça pour ma mère, mes cousins, mes nièces, mes petits-enfants, ma fille, mon fils, en fait toute la famille.
Nous ne venons pas simplement donner de la dinde, nous voulons apporter de la compassion, de la famille et de l'éthique. Asseyons-nous, mangeons et communions ensemble. Nous voulons vous connaître afin que vous puissiez nous connaître. Je ne considère pas l'argent comme étant la solution à tout, mais plutôt quel impact social nous avons dans la vie des gens, de sorte à transformer leur vie.
Shelia Bryant est une volontaire, elle est également politicienne.
Il fait des choses absolument nécessaires pour la communauté. Pour certaines personnes qui tombent entre les mailles du filet, il est comme une soupape de sécurité. Il offre des formations professionnelles. Regardez cette ligne avec des personnes qui reçoivent gratuitement de la nourriture, de la dinde et un dîner de Thanksgiving. C'est un homme extraordinaire et cela lui vient du cœur. Il est sincère dans tout ce qu'il fait pour la communauté.
Pour l'homme d'affaires natif du Nigeria, Ce moment de partage est doublement précieux, car si aujourd'hui il a du succès, c'est en partie grâce à cette communauté.
Il y a un grand fossé entre l'Afrique et les Afro-Américains, et le don de Dieu est de savoir que nous sommes tous Africains, peu importe d'où nous venons. Il est important que nous nous impliquions à un niveau personnel sans tenir compte du gouvernement.
Il aura fallu près de 3 mois pour faire de ce don annuel de dinde un succès. Et ici, tout le monde est volontaire, y compris les employés de Moutir Service, dont Emmanuel est le PDG.
Parce que nous avons beaucoup d'employés, nous leur enseignons la compassion. Et à cause de la compassion, ils s'impliquent. Ensuite, nous servons. C'est pourquoi je travaille aujourd'hui. Je suis chauffeur, nettoyeur, cuisinier, je fais tout. Et cela me plaît.
Et s'il y a bien une personne envers qui Emmanuel est reconnaissant, c'est son épouse.
Ma femme aime servir les gens. Je suis un entrepreneur social à cause d'elle et elle m'a appris un autre aspect de la vie que je ne connaissais pas. Et je lui en suis très reconnaissant.
Si la Fondation TIS est le bras qui donne, Moutir Service est celui qui travaille et un pourcentage de ses bénéfices nets annuels est remis à des causes affectant les populations défavorisées et marginalisées. Les deux structures combinent leurs efforts pour faire la différence dans des communautés très pauvres aux États-Unis et en Afrique de l'Ouest.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Tony Pollock. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.